Bonjour et bienvenue à votre émission Je vois pas le rapport avec la Bretagne, votre émission de vulgarisation militante avec vos deux animateurs préférés, Shona.
C'est moi.
Et moi, Morgane. Tous les mois, vous aurez cette émission sous le signe du ravachol et tous les mois, l'émission parlera d'un thème. Et aujourd'hui, on va parler féminisme avec notre invitée Elsa. Bonjour Elsa.
Salut.
Comment vas-tu ?
Ça va.
Parfait.
Parfait. Donc on va poser cette question en introduction, c'est quoi le féminisme, Shona, vas-y.
Donc le féminisme, et ceci en me basant de la définition Wikipédia, donc c'est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité entre femmes et hommes sur tout point. Donc Elsa, qu'en penses-tu de cette définition ?
Déjà, je ne suis pas d'accord de parler de le féminisme. Les féminismes seraient plus justes parce qu'ils dépendent de la société dans laquelle les femmes luttent. Et de la même façon, ça change au cours de l'histoire. Les choses ont été très diverses depuis le 19e siècle jusqu'à présent. Donc on ne peut pas parler de féminisme unique. Voilà.
Très bien. Merci Elsa.
Donc, on parle actuellement de troisième vague de féminisme. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi on parle de troisième vague ?
On parle de troisième vague parce qu'il y en a eu trois, effectivement. Une première vague qui a démarré au cours du 19e siècle avec le mouvement des suffragettes. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'a été instaurée la Journée internationale des femmes le 8 mars, parce que c'est en 1911 que Clara Zetkin a appelé à une grève internationale des femmes pour lutter contre, pour le droit de vote des femmes, pour l'égalité des sexes, et aussi, on nous l'oublie toujours, le socialisme. Hein, le 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, mais c'est la journée internationale des droits de la femme, des femmes. Voilà. Alors ça, c'est la première vague. Et puis, il y a eu la deuxième vague qui a démarré dans les années 70, à l'issue de mai 68 pour la France, et qui a été en fait, préfigurée par un livre extrêmement important de Simone de Beauvoir qui s'appelle « Le deuxième sexe » et qui est paru en 1949. C'est un livre qui a causé un scandale inouï en France. Il a été la cible d'attaques absolument immondes contre la personnalité de Simone de Beauvoir. Mais en même temps, ça a été un succès immense puisqu'il a été traduit très vite dans un nombre incalculable de langues. Et toutes celles qu'on va retrouver dans le mouvement féministe dans les années 70 ont toutes évidemment lu Simone de Beauvoir. Alors ça, c'est déjà, disons, peut-être le point d'origine de cette deuxième vague. Et puis aussi, très important, dès 1967, il y a eu la loi Neuwirth, la loi pour la liberté de la contraception. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi a été votée en 1967, mais que les décrets d'application ne sont sortis qu'en 1972, c'est-à-dire bien après, et que cette loi interdisait la publicité pour la contraception. Donc c'était absolument lamentable, il fallait que les femmes se prennent en main. Voilà.
Très bien Elsa, excusez-moi. Donc pourrais-tu nous expliquer aussi ce qu'est le MLAC, donc le mouvement pour la liberté d'avortement et de contraception ?
Alors justement...
Donc, nous supposons bien entendu que tu en as fait partie également.
Bah oui, oui bien sûr, j'ai
donc,
fait
écoute,
partie.
Donc écoute, dis-nous tout de suite.
J'ai fait partie du MLAC ici à Blois, c'était extrêmement important pour nous de créer un mouvement qui se batte sur ces deux aspects, contraception et avortement. Le mot d'ordre à l'époque, c'était un enfant, si je veux, quand je veux. Alors certains amis d'ailleurs, rajoutaient si je peux. hein, évidemment. Mais donc, ça venait en fait du constat incroyablement évident qu'il fallait faire quelque chose pour l'avortement parce que, par exemple, les militants du planning dont je faisais partie, nous recevions des femmes qui étaient absolument dans la panique monstre de se retrouver enceinte et de ne pas savoir que faire de leur grossesse. Il y avait des avortements clandestins dans des conditions d'hygiène absolument déplorables qui faisaient qu'il y avait un nombre incroyable de femmes qui se retrouvaient stériles parce que à cause d'infections hein, suite à leur interruption de grossesse, ça se passait chez des faiseuses d'anges. Il y avait donc des mortes aussi. Il y avait des femmes stériles et ça n'était plus possible. Et donc à Blois, on a créé ce mouvement avec le planning familial et des médecins sympathisants, ce qui fait que nous faisions des avortements. Et toutes les semaines, pratiquement, nous sortions un tract pour dire ben, « allez-y, inculpez-nous, nous avons fait tant d'avortements ». Et du coup, il y a eu la fameuse loi Veil hein, qui a été édictée en 1975. Et souvent, on dit que c'est Simone Veil qui a permis la liberté de l'avortement. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. S'il n'y avait pas eu le rapport de force que nous, MLAC et femmes, avons instauré sur le terrain, jamais cette loi n'aurait été édictée. Parce qu'en fait, Simone Veil, elle a agi en tant que juriste. Elle ne pouvait pas supporter que la loi soit bafouée. En tant que juriste, elle n'était pas possible. Et donc, il fallait que les choses rentrent dans l'ordre, et c'est-à-dire édicter une loi qui, d'ailleurs, entre parenthèses, pour nous, était très restrictive. Parce que, d'une part, elle n'était pas autorisée pour les mineurs sans autorisation des parents, première chose. Deuxième chose, il y avait la question des délais. Et nous savions qu'il y avait un problème par rapport aux délais, puisqu'on envoyait des femmes en Angleterre et aux Pays-Bas. Et puis, surtout, le fait que nous voulions des centres d'interruption volontaire de grossesse partout dans chaque hôpital.
Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu les oubliés de cette loi ? Parce qu'on parle beaucoup, du coup, on parle beaucoup actuellement de la loi Veil, etc., de Simone Veil, d'à quel point c'est une héroïne, une figure du féminisme, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que finalement vous êtes un petit peu les oubliés de cette histoire ?
C'est pas ce que je dirais, parce que de toute façon, après une période un petit peu de traversée du désert, on s'est quand même attaché à d'autres sujets qui étaient pour nous extrêmement importants. Hein, je veux dire, on ne s'est pas arrêté à la question de l'avortement et de la contraception. On a fait en sorte que le viol soit criminalisé. Il faut savoir que jusque-là, le viol était considéré comme une agression mineure qui était traitée en correctionnel. Nous avons fait en sorte que ce soit criminalisé, donc jugé par des jurys d'assises. Entre parenthèses, on a envie de revenir là-dessus en ce moment, pour des raisons d'économie, et souvent les viols ne sont pas caractérisés hein, comme des viols, donc la lutte n'est pas terminée sur ce terrain-là. Et puis surtout, on a travaillé sur la question de l'égalité professionnelle. Il faut savoir qu'en France, en moyenne, une femme gagne 30% de moins qu'un homme à travail et qualification égale, et donc y a du travail à faire hein, là-dessus.
Donc, très bien, Elsa. Merci Elsa.
Merci
avant de passer à la troisième vague, je vous propose une petite pause musicale avec une chanson qui s'appelle L'hymne des femmes, qui était sûrement une chanson importante pour la deuxième vague, j'imagine.
Bah oui, c'était notre hymne à nous.
Parfait. Allez, c'est parti, on l'écoute.
Yada, 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 yada même sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Le fond, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde relégué. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous, femmes esclaves, jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
Donc nous nous retrouvons pour enchaîner sur la deuxième partie que Morgane va nous présenter.
Voilà, on va parler maintenant de la troisième vague, mais avant ça, Elsa, est-ce que tu peux
on
nous parler
de la chanson?
Oui, justement, est-ce que tu peux nous parler de la chanson?
Ben écoute, il faut savoir que c'est un chant en fait qui date de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le chant des déportés, le chant des marais, qui a été repris par les femmes pour qu'on ait effectivement un hymne, parce qu'il n'y avait rien pour nous comme chant de ralliement. Et ce qui est assez émouvant, c'est que cette année, pour la Coupe du monde de football féminin, cette chanson, cet hymne a été repris par tout un stade. Et j'ai eu l'occasion de voir la vidéo, je vous invite à la regarder. C'est assez émouvant d'avoir un stade qui chante l'hymne des femmes. Voilà.
Très bien.
Donc moi, ça m'a touchée, en tous les cas.
J'imagine, oui.
On ira regarder ça.
On ira regarder ça, en effet. Donc je vous propose maintenant qu'on parle de la troisième vague, donc du féminisme. On a parlé de la première, de la deuxième. Parlons de la troisième. Donc on va commencer par l'intersectionnalité. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Donc l'intersectionnalité, mot compliqué, donc c'est un sujet qui est quand même assez important quand on parle de lutte. Donc l'intersectionnalité, c'est quoi? Je vais demander à Elsa de nous le définir parce qu'elle saura bien mieux le faire que moi. Vas-y Elsa.
Non, mais c'est-à-dire qu'on se retrouve en fait depuis les années 90, bon la troisième vague c'est à partir des années 90, et qu'on se retrouve dans un contexte social extrêmement fragmenté, très différent des années 70, avec une affirmation de différents groupes minoritaires, que ce soit les femmes racisées, que ce soit les lesbiennes, que ce soit, je ne sais pas,
les femmes trans,
les prostituées, donc, et qui essayent de mettre en avant des oppressions spécifiques. Et donc, le concept d'intersectionnalité est un concept très important, parce qu'il permet de comprendre qu'en fait, les oppressions, elles ne font pas que s'additionner. Par exemple, une femme noire aux États-Unis, puisque ça vient des États-Unis, cette notion-là, ce n'est pas être opprimée en tant que femme, plus être opprimée en tant que noire, mais subir une oppression spécifique qui est femme noire à la fois. Et donc, je pense que c'est important pour les groupes minoritaires, effectivement, de se référer à ce concept-là, mais qu'il faut éviter que ça conduise à une fragmentation de la lutte. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faudrait trouver que chacun, effectivement, chaque groupe minoritaire se retrouve dans sa propre oppression, quitte à se retrouver entre femmes noires par exemple, ou entre femmes, ou entre trans, ou entre lesbiennes, bien sûr, mais qu'il faudrait trouver des mots d'ordre qui permettent d'unifier la lutte, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut espérer gagner quelque chose.
D'accord.
Très bien. Récemment, même ça fait déjà quelques années, on parle de plus en plus de MeToo, Balance ton porc, etc. Ce mouvement des femmes violées ou agressées sexuellement, des femmes et des hommes évidemment, beaucoup moins évidemment.
Surtout les femmes.
Surtout les femmes. donc ça a explosé avec l'affaire Harvey Weinstein, le gros producteur américain.
Je pense que le mouvement MeToo était extrêmement important parce qu'au départ, il est parti effectivement d'un milieu extrêmement réduit qui était le milieu du cinéma américain. Mais en fait, je ne sais pas, ça a été comme un catalyseur en fait, de tout ce que pouvaient éprouver, vivre les femmes partout dans le monde. Le mot d'ordre MeToo a été traduit dans une cinquantaine de langues. Je veux dire, je l'ai vu traduit en arabe, par exemple, dans le monde arabe. Il a été traduit en vietnamien, je pourrais citer, je ne sais pas, un nombre incalculable de langues. Et je pense que ça a été extrêmement important pour la prise de conscience des femmes et se dire qu'elles n'étaient pas seules. Ça rejoint d'ailleurs quelque chose que nous avions fait dans les années 70, c'est que lorsque nous faisions des groupes de femmes qui étaient victimes des mêmes oppressions. Par exemple, lorsque nous faisions des groupes de parole de femmes victimes de violences conjugales ou victimes de viols, c'est un petit peu la même chose. Donc ce réseau social, les réseaux sociaux ont permis que se rassemblent des femmes qui étaient victimes de la même chose, et je pense que c'est extrêmement puissant et que ça donne du pouvoir aux femmes, en fait, d'une certaine façon. Alors ça a été traduit en France par Balance ton porc, le hashtag Balance ton porc, et du coup le résultat a été immédiat, hein. 40% de plaintes en plus dans l'année qui a suivi pour agression sexuelle, harcèlement et viol. Ce qui est...
C'est assez impressionnant.
C'est ouais. Énorme, 40% de plus. Bon, sachant que c'est quand même très très difficile de porter plainte, que c'est difficile de se retrouver dans un commissariat de police, que 9 fois sur 10, les policiers n'acceptent pas de prendre les plaintes, mais font des mains courantes. Donc c'est le signe que ça a été extrêmement puissant.
En effet.
Je peux me permettre de rajouter un petit truc.
Ah, vas-y.
Au-delà de ça, même dans les milieux lycéens, étudiants, voire collégiens, on a de plus en plus de filles, de jeunes femmes qui parlent et qui osent parler, même si c'est qu'à leurs copines, etc., qui osent en parler, d'harcèlement de rue, d'agression dans les transports, d'agression au quotidien, voire d'agression sexuelle comme des viols, qui osent en parler, qui
aussi,
osent parler de leur traumatisme.
Entre guillemets, conjugaux, quoi.
Oui, également.
Leurs copains ou leurs copines qui les frappent, etc.
Surtout leurs copains.
Surtout leurs copains, étonnamment. Mais oui, c'est
Men
vrai que
trash.
On va dire que la parole s'est libérée grâce au hashtag MeToo. Donc, franchement, oui.
Même s'il y a encore bien des avancées à faire, c'est déjà très bon début là-dessus.
Ça, c'est sûr. On peut aussi parler de, dans la troisième vague, on a la gratuité des protections hygiéniques. J'imagine que c'était déjà le cas avant. Certains ne demandent que l'enlèvement de la TVA pour les protections hygiéniques, mais la gratuité des protections hygiéniques, on en pense quoi ?
Bah écoute, moi je pense que c'est une bonne chose, c'est marrant parce que nous, la deuxième vague, on n'y avait pas pensé du tout. On parlait beaucoup, beaucoup du corps. Il y a eu tout le mouvement de connaissance de son propre corps à partir d'un livre qui a été très connu, enfin qui a été traduit des États-Unis, qui s'appelait Notre corps nous-mêmes. Mais c'est vrai que la question de la gratuité des protections hygiéniques, ça nous avait pas effleuré l'esprit, et je trouve que c'est génial que les jeunes copines y pensent. Donc de fait, en France, depuis 2015, le taux de TVA a été abaissé de 20% à 5,5%, mais demander la gratuité me paraît tout à fait juste. Et de fait, certaines régions, d'après ce que je sais, offrent déjà des kits avec des protections, des tampons ou des caps. Donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, bien sûr, bien sûr. Donc, déjà, il y avait une histoire, il me semble, sur la question des rasoirs féminins qui coûtaient 20 à 30% de plus que les rasoirs masculins. Oui, oui. Donc, c'est un petit peu la même chose. Je pense que s'attacher à cet aspect économique des choses, c'est incroyablement important, puisqu'on sait que les femmes gagnent moins que les hommes. Donc,
et surtout du fait que les protections hygiéniques, contrairement au rasoir, pour le coup, sont totalement indispensables pour une femme.
Évidemment.
C'est des produits.
Enfin, à moins de repasser à des chiffons dans la culotte comme au Moyen-Âge, et c'est pas très évident.
C'est surtout pas très.
Non, mais il y en a qui n'ont même rien.
Oui, oui.
Et non, donc, je trouve que, par exemple, l'exemple de Irénée.
Irénée
est un exemple formidable. Hein. C'est une jeune femme qui, le jour de ses règles, s'est baladée dans Paris sans mettre de protection. Et donc, elle s'est baladée, elle est allée en cours, elle est sortie de chez elle, elle est allée en cours, elle a fait ses courses, elle s'est baladée.
Dans le métro. Elle a laissé des taches,
avec un pantalon taché. Et je pense, pour attirer l'attention là-dessus, et je pense que c'est un geste fort. Bon, c'est toujours ce genre de choses qui permettent de faire bouger des choses.
C'était pour attirer l'attention là-dessus sur la gratuité des protections, et aussi d'un autre côté pour dire aux femmes, ce n'est pas grave, vous pouvez avoir un pantalon taché, une culotte tachée, n'importe quoi de taché, ce n'est pas grave, c'est naturel, ça arrive. Et on constate, quand on la suit sur les réseaux sociaux maintenant, qu'elle organise beaucoup de FAQ, donc de foires aux questions avec ses abonnés. Et on a beaucoup de témoignages qui reviennent de pas mal de ses abonnés qui disent, maintenant je n'ai plus honte quand mon torche est quand mon short est taché, quand ma robe est tachée, quand mon pantalon est taché, merci à toi, blablabla. Donc son combat là-dessus, autant pour l'acceptation de notre corps que pour la gratuité des protections hygiéniques, est absolument génial.
Oui, et donc c'est Irène Névrose sur,
Irène Névrose sur Instagram.
Sur Instagram, si vous voulez aller suivre ce compte, vachement bien, ouais. Donc on a vu aussi assez récemment, là, un peu plus d'un mois, la grève du 14 juin en Suisse, la grève des femmes.
Hyper important. Hyper importante cette grève en Suisse, parce qu'il faut savoir que la Suisse vit sous le régime de la paix sociale et que donc déjà parler de grève, c'est déjà très transgressif. Première chose. Deuxième chose, ça venait après une première expérience de grève en 1991, mais ils ont réussi à faire mieux. Plus de 500 000 manifestantes pour la Suisse. Je ne sais pas si vous voyez, énorme, absolument énorme, parce que toutes les villes ont été touchées, y compris les plus petites. Et le mot d'ordre était très simple, c'était égalité, point final. Égalité, point final, c'est-à-dire bien sûr égalité salariale. Et ça venait parce qu'il y avait un projet du gouvernement suisse sur la question des retraites. Et les Suisses, comme nous en France, se sont aperçus que ce projet de retraite allait les désavantager plus que leurs collègues masculins. Et donc c'est comme ça qu'est partie cette grève en Suisse. Et ce serait peut-être bien qu'on pense à faire la même chose en France. D'ailleurs, je crois que certains collectifs pensent à faire quelque chose de ce genre le 8 mars 2020.
Ah. Peut-être. Puis, notamment, on a des collectifs qui commencent à se former partout en France, à Paris. Donc, on a des femmes, dont Irénée, justement, qui ont été occupées le Panthéon, pour demander à ce que certaines figures féminines, etc., soient au Panthéon. Donc, on commence à avoir quand même pas mal d'actions qui nous viennent de Suisse.
Bien. Bah, si on pouvait prendre exemple sur la Suisse, ce serait sûr
ça serait
que
pas
ce
mal.
Serait bénéfique. Avant de finir et de conclure, on voulait parler du rassemblement et manifestation contre les féminicides et les violences sexuelles. Notamment, il y en a eu un à Blois le 10 juillet.
Ouais, le mercredi 10 juillet, la semaine dernière.
Voilà. Au moment où on enregistre.
Oui, voilà.
Donc. Est-ce qu'il y avait du monde ? Comment ça s'est passé, etc., à Blois, par exemple ?
Je pense que c'est très important de parler des féminicides. D'ailleurs, déjà, arrêtons-nous sur le fait qu'on utilise le terme féminicide.
Et pas meurtre.
Il y a, ne serait-ce qu'il y a 6 mois, on n'entendait pas féminicide dans les médias, dans les journaux. Personne. Il n'y avait que les féministes qui parlaient de féminicide. D'ailleurs, c'est un terme qui vient de nos camarades espagnols, latinos. Hein, et je pense qu'on fait bien de parler de ça, parce que jusque-là, on parlait, de crimes passionnels. comme si la passion débouchait nécessairement sur un meurtre. Donc il n'en est pas question. Donc je trouve que c'est déjà bien qu'on parle de féminicide. Et il faut savoir qu'au moment où nous parlons, 76 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. 76 femmes. Si on continue comme ça, ça veut dire plus de 150 femmes tuées à la fin de l'année 2019. Alors qu'en 2018, il y avait 121 femmes, déjà 121 de trop, bien sûr. Donc il fallait absolument porter un coup d'arrêt et montrer qu'il y avait quelque chose à faire. Il faut savoir que la plupart de ces femmes ont appelé à l'aide, parfois en déposant plainte. 5 fois, 6 fois, 7 fois, la police ne bouge pas, elle ne fait rien. Et évidemment, le résultat arrive par le meurtre de ces femmes. Et comme par hasard, lorsqu'on fait un rassemblement à Blois comme ailleurs, tiens, comme par hasard, la police est là. La police est là au moment où on se rassemble, alors que lorsque les femmes appellent à l'aide, elles ne viennent pas. Donc je pense que c'est un scandale qu'il faut absolument condamner. Donc ce rassemblement était un grand succès, je pense, parce que pour un mois de juillet, à 18h, à Blois, une cinquantaine de personnes, bon, je trouve que c'est vraiment très bien, et qu'il faut continuer. C'est un rassemblement qui a été appelé par le collectif départemental du droit des femmes du Loir-et-Cher. Et donc je pense que voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec le collectif.
Tout à fait, on compte en parler juste après, Elsa.
Eh bien, vas-y, Shona, parle-nous
du collectif. Donc, pour le mot de fin. Donc, on va parler du collectif des droits des femmes, donc du Loir-et-Cher, situé à Blois. Donc, ce collectif se réunit, dis-moi, Elsa.
Alors, le collectif se réunit en général le premier ou le deuxième vendredi de chaque mois,
voilà.
À 18h. En général, on se réunit dans un café du côté de la place de la République. Voilà, par là, je ne dirai pas lequel, je ne vais pas faire de pub.
Bœuf gourmand.
Bon, voilà. On peut prendre contact avec nous. Il y a des plaquettes qui sont distribuées un petit peu partout. Et voilà, quoi.
Donc voilà, donc, le comité donc, qui est à l'origine de ce rassemblement, du rassemblement contre les féminicides de mercredi 10 juillet. Donc, que je conseille de rejoindre. Donc, on va également vous parler du Ravachol. Donc, le Ravachol.
Le Ravachol, très bon journal blésois.
Le mensuel qui ne fait pas dans la dentelle.
Le mensuel qui ne fait pas dans la dentelle, il est à 1 euro et vous pouvez l'acheter tous les
samedi
matin au marché de Blois.
À partir de 10h, devant le Saint-Lubin.
Devant le Saint-Lubin, parfait. Donc voilà, mais j'avais juste une question, Fiona.
Oui.
Je vois pas le rapport avec la Bretagne.
Et putain, Morgane, t'as rien compris encore.
Allez, on se retrouve le mois prochain.
Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils et les canons, fondant le monde des entailles, couvrant les morts, les plaines et les ballons. Puisque les hommes sont des sauvages, qui réunit la fraternité. Femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans. Tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui nourrit de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bourreau crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi l'éternel crucifié? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus pour votre gloire donner la chair de nos petits.